soit tous un petit peu, qu'on part tous des mêmes bases, de vous raconter l'histoire avec des mots assez simples, en fait, de manière très factuelle, de ce qui s'est passé pendant ces 45 jours. Et au travers des, enfin, à travers cette histoire, je pense qu'on pourra se rendre compte de à la fois la diversité, puis aussi d'une certaine forme de poétique collective qui est née de vos interventions, de vos productions, de votre engagement aussi, puisque ça a été une aventure qui a demandé énormément d'engagement de la part des artistes, et je les en remercie voilà, du fond du cœur. Alors le jour, je vais passer jour par jour. Hein. Donc jour 1, Marilène Négro, Vague. Un film est projeté de bord à bord sur le mur sud, un chemin désert dans un sous-bois. Une lente avancée dans l'image et dans le chemin, un mouvement à peine perceptible. Ce film est celui d'une disparition. On entend des cris qui appellent Anna, un sifflement de bateau, une musique mélancolique. Le passage du temps est suspendu. L'artiste orchestre même sa propre disparition et ne se montre pas au moment de son vernissage des montages, laissant les visiteurs seuls avec l'œuvre. Jour 2. Armand Béard, l'épopée bleue suite. C'est le titre. Armand Béard déploie un studio de tournage éphémère, déroule un papier chromo bleu depuis le haut du mur sud, celui-ci, jusqu'au milieu de la salle, dessinant un chemin, disposant des projecteurs, des caméras et des écrans de contrôle, un escabeau, des tirages de décors pour d'hypothétiques incrustations, une machine à fumer. Le visiteur a la possibilité de rentrer dans le champ de la caméra et de passer de l'autre côté de l'image, dans l'image. Jour 3, Nicolas Simaric, passage de témoin. L'artiste apporte dans son sac un lot de témoins de courses relais aux couleurs assorties, commandés sur Internet. Durant la journée, le centre d'art se transforme en terrain de jeu et en lieu de circulation pour ses objets de transfert. Nicolas Simaric prend ses instruments de jeu dans les réserves de la maison populaire, chaises, tables, pieds de caméra, caméra, caddie, prise, ampoule, balai, dalle de béton, escabeau, gants en plastique et de chantier, lampes fluo, tous servant de support de ses sculptures, pour agencer, greffer, enfiler les témoins. L'artiste prend aussi pour support de ses sculptures éphémères des éléments fixes de l'espace, tapis, portes, ou encore décors, le sien propre et celui des gens qui passent, les poches de leur manteau, le guidon de leur trottinette, etc. Les témoins sont remballés le soir venu et remportés en métro. Jour 4, Aurélien Moll, reprise. Aurélien a fait encadrer un portrait de Basquiat arraché dans un catalogue de consultation de l'expo du Musée d'art moderne de la ville de Paris. Un portrait où l'on voit Basquiat très jeune, en gros plan avec une toise à hauteur du crâne. Le cadre est accroché tout au fond de l'espace, sur le mur sud, paraissant démesurément petit, le centre d'art démesurément grand, seuls deux néons sont allumés. Il faut s'approcher tout près pour voir de quoi il s'agit. L'artiste est assis à proximité avec son ordinateur afin d'écrire un texte sur l'œuvre, un texte à double entrée, sur le portrait lui-même et sur l'utilisation qu'il fait du portrait, à lire tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Un texte de médiation écrit en temps réel comme partie de l'œuvre. Jour 5, LNG, oxydation du jour et de la nuit. LNG propose une simple exposition de peinture, altérée tout au long du jour par les changements de lumière. Les toiles sont carrées, pour la plupart, dans des tonalités douces, avec une matière riche et parfois translucide. L'artiste s'assoit dans un fauteuil en sky près de ses peintures et s'y adonne à un ouvrage de couture pour passer le temps. Jour 6, Laurent Tixador, appel à participation. Une table, une chaise et un ordinateur. Un bureau d'inscription pour une chasse à l'homme. Un porte-trophée en attente de son trophée, qui sera une paire de chaussures. C'est ainsi que Laurent Tixador lance l'appel à participation à un projet qui sera présenté quelques semaines plus tard dans un lieu prestigieux du centre de Paris. L'artiste cultive sa furtivité et invite les visiteurs à prendre leur permis de chasse qui leur donnera l'autorisation de le traquer comme un gibier sur sa marche entre Nantes et Paris alors qu'il se rendra au vernissage de l'exposition. Une vingtaine de permis de chasse sont délivrés dans la journée. Jour 7, Marie-Jeanne Hoffner, Unfold. Durant la matinée, l'artiste prend près de 600 photos des murs du centre d'art. Installée sur une table dans l'espace, elle passe l'après-midi à réaliser un montage de 400 d'entre elles en une séquence sur une... Oui. Le soir venu, au moment du vernissage des montages, elle projette la séquence sur le mur sud, dans une fenêtre 4 tiers verticale. Jour 8, Olivier Caparros, performance sonore. Olivier Caparros a rassemblé dans le centre d'art un dispositif composite d'improvisation sonore, des textes d'auteurs, des extraits de films, un ampli guitare, un enregistreur, un vieux pick-up, des carnets de notes, des Larsen. Il intercale des temps d'activation et des temps de silence. Jour 9, Cade Leister, A Test of My Omnipotence. Kelgleister délimite un espace de mouvement ovoïde par du scotch blanc collé au sol. Son corps est mis à l'épreuve par le charriement de 100 kg de terre à modeler. Elle fabrique une boule de terre grossissant au fil des heures, portée d'un bout à l'autre de l'espace jusqu'à l'épuisement. À la fin du jour, il lui est impossible de soulever la boule. La terre est récupérée pour les ateliers de la maison populaire. Les traces de terre sont nettoyées, le scotch arraché. Jour 10, Julien Nedelec, les très bas reliefs. Des laits de papier vierge sont fixés sur tous les murs du centre d'art, déroulés jusqu'au sol, se chevauchant pour ne plus rien laisser apparaître. L'artiste, aidé de 3 personnes, réalise un frottage géant au graphite gras de toutes les surfaces. Les reliefs apparaissent d'anciennes traces d'accrochage, des cicatrices du lieu. Décrochage des laits, roulés les uns avec les autres pour ne faire qu'un tube à prendre sous le bras. Jour 11, Régis Perret, tout ce qu'il faut plutôt que rien. L'artiste vient de Nantes avec un tapis et quelques exemplaires de son dictionnaire des mots propres. Il discute avec le personnel d'entretien, récupère des ustensiles de nettoyage, aspirateurs, balais, produits, etc. Il accroche son manteau sur un clou planté dans le mur sud au fond de l'espace, appuie des balais sur les murs et installe le tapis au centre en disposant dessus des dictionnaires. L'artiste s'assoit au centre du tapis comme un charmeur de serpent, l'aspirateur jouant le rôle du serpent. Longue journée, passage d'une classe, rencontre de quelques visiteurs. Régis Perret range ensuite le matériel, plie son tapis en rouleau et met ses dictionnaires dans son sac. Quelques-uns restent sur l'étagère derrière l'accueil. Jour 12. Frédéric Dumont, glossolalie. Frédéric Dumont s'engage dans l'expérience de la glossolalie, savoir parler des langues étrangères sans les connaître. Il a au préalable répertorié les langues parlées par les adhérents de la maison populaire, dont il a choisi certaines, pour en apprendre quelques mots, à partir d'un texte écrit par lui. Le polonais, le coréen, l'arménien, l'islandais, l'arabe, le bambara et le pakistanais. Dans un dispositif de création visuelle et sonore installé au centre de l'espace, lampe de salon, vidéoprojection des lexiques sur le mur ouest, micro sur pied, bribes de mots collés sur le mur sud, éclairé par un spot, il performe une poésie dans ses différentes langues avec des mots exprimant l'ici et le maintenant. Non sans faire penser à une cérémonie chamane. Jour 13. Julien Discrit, les machines n'ont pas de pourquoi. Julien Discrit fabrique une machine à pourquoi. Un ordinateur et une imprimante matricielle sont installés au centre de l'espace et reliés à un dispositif qui recueille auprès des adhérents et des internautes des questions commençant par pourquoi. Au gré de leur arrivée, ces questions sortent sur papier listing, générant un bruit strident d'aiguilles comme dans les années 80. Le lait de papier se déroule progressivement au sol à mesure que les questions s'accumulent. Jour 14, Nicolas Ledoux, au coin du feu. L'artiste tente d'enrayer le processus de disparition quotidienne imposé par le protocole en persuadant les autres artistes de laisser leurs œuvres en place pour générer une accumulation. Cette stratégie opère 3 jours durant jusqu'à ce que l'un des artistes décide d'enlever les œuvres pour retrouver un espace blanc. Le collectif Non-Breaking Space s'en chargera. Nicolas Ledoux vient avec la cheminée artificielle de son salon emballée dans un sac argenté. Il installe le feu dans un coin de l'espace, dispose un tapis beige et des coussins gris, créant un espace cosy qui tourne le dos aux visiteurs et à la webcam. Une bande-son laisse entendre le crépitement de flammes qui couvre la voix de Marcel Duchamp. Discussion sur l'art avec le maître au coin du feu. Sensation familière d'un chez-soi. Jour 15, Guillaume Aubry, Les Trois Sœurs. 3 souris sont nourries la nuit précédente avec le roman de Tchekhov, Les Trois Sœurs. Le matin, l'artiste arrive au centre d'art avec une boîte verte. Les œuvres de Julien Discrit et Nicolas Ledoux sont en place. On entend encore Marcel Duchamp et le bruit des flammes. Guillaume Aubry accroche dans une zone laissée vacante une ampoule à tungstène qui descend à 40 cm au-dessus du sol, sous laquelle il place le livre et les restes du grignotage de la nuit, des miettes de livre. Il lâche les souris, qui prennent connaissance du lieu. Elles ne sont pas sauvages, explorent le coin du feu de Nicolas Ledoux, les socles, les coins, l'intérieur des simèzes. Elles ne fuient pas. Nous sommes vendredi. Elles étaient toujours là le lundi. Jour 16, Non-Breaking Space, Nullum Emin Locus. La veille au soir, un homme éventre le mur ouest, ici, sans raison apparente. Le lendemain matin, un autre vient évaluer les dégâts. Il prend des mesures et repart. Quelques instants plus tard, il revient avec du matériel et se met au travail pour réparer la simèse. Il recrée une paroi avec des matériaux divers, bois, métal, carton, etc. Un jeune à capuche tente d'utiliser ce patchwork comme mur musical et tapote sur les plaques avec des baguettes. Il crée une mélodie de batterie inédite. Le réparateur couvre ensuite cet instrument improvisé avec du placoplâtre et de l'enduit. Il ne subsiste en fin de journée qu'une cicatrice. Jour 17. Guillaume Robert. Ôtez toute chose que j'y vois. L'artiste perce 680 trous dans le mur ouest pour écrire la phrase « ôtez toute chose que j'y vois ». Cela prend quelques heures. Les lettres sont à peine perceptibles, il faut se déplacer dans l'espace pour les voir. Il n'y a rien d'autre. Puis il commence le rebouchage avec 680 petits ronds de bois qu'il a découpés au préalable dans son atelier. Il passe de l'enduit et une couche de peinture. La phrase transparaît à travers le blanc comme un enduit. Jour 18, Aymeric Hébrard, Altaïr, La Jetée, Partial and Good. Aymeric installe son ordinateur sur un totem devant la webcam. Il diffuse là une trentaine de photogrammes issus de la seule séquence filmée de La Jetée, des images altérées par le crash de son disque dur. Dans l'espace sont projetées les 120 autres images de la même séquence de La Jetée, sortie, elle, indemne de l'accident. Une même séquence séparée en deux par les hasards du traitement digital. Aymeric se réfère aux différences qu'il y a entre la réalité et ce que les médias en montrent, comme en Égypte au moment même de son intervention. Jour 19. Charlie Jeffrey. Ask for something, get it, do something to it, do something else. Charlie vient avec une valise dans laquelle sont rangés des dessins et des carnets de notes, et avec une guitare électrique. Une table et une chaise sont installées de biais au centre de l'espace. Un micro est dressé. Il accroche peu à peu les dessins au mur sur une ligne tout autour de l'espace. Ce sont des phrases courtes à l'acrylique ou à l'huile sur un papier épais. Geology rocks my world. Don't do anything. What do I have to do when I stand up? Etc. Charlie se lance dans une improvisation parlée ou chantée, accompagnée de sa guitare. Il circule dans l'espace, rajoute une peinture, s'assoit, lit tout haut ses carnets de notes, s'emporte, apostrophe le visiteur, puis rentre dans un monologue en piochant les mots visibles dans l'espace. Jour 20, Carole Douillard, tenir debout. Carole réalise une performance pour laquelle elle me demande de tenir debout toute la journée. Je tiens debout toute la journée. Elle reste là pour m'accompagner, elle prend des photos de temps en temps, je regarde droit devant, vers la webcam. Je fais des pauses durant lesquelles je prends des notes. Je traverse ainsi le jour, immobile dans l'espace. J'écris ensuite un compte-rendu de cette expérience. Jour 21. Laurent Pernel, garde à vous. Laurent Pernel vient avec un hamac dans un sac. Le hamac est posé. Il est bleu, blanc et rouge. Il est disponible pour l'équipe et les visiteurs toute la journée, pour ne rien faire. Il est ensuite décroché le soir venu et rangé dans le même sac. Jour 22. Collectif 1.0.3. Pan and Scan. Le collectif arrive avec 1700 livres blancs qu'il empile comme un mur devant la webcam. Dans le centre d'art, il y a donc, serré dans l'espace de documentation, laissant libre la zone d'exposition, une sculpture blanche sur des socles noirs utilisés pour surélever le mur. Depuis Rennes, je vois se transformer le format 4 tiers de l'image webcam en format de cinéma panoramique. Des personnes circulent devant le mur éclairé par des projecteurs et le contraste traité par la webcam fait apparaître le fond de la salle, révélant un envers du décor. Les livres blancs sont ensuite rangés dans des cartons pour être transportés plus tard. Jour 23, Maïté Célia. Maïté Célia couvre la webcam avec un sac plastique d'épicerie. Elle projette sur le mur sud un film vidéo où l'on voit des lueurs blanches osciller dans l'espace comme des lucioles. Ce sont d'innombrables téléphones portables diffusant des images de feux d'artifice qu'on distingue à peine. Sur le site internet, la webcam ne montre rien qu'une lueur diffuse, et l'on entend des bruits d'explosion qui nous évoquent l'actualité de la place Tahrir. Jour 24, Cyril Verdet. Cyril Verdet apporte avec lui, une maquette au 1/100 de la maison populaire dans une boîte spécialement conçue pour elle. L'intérieur de cette maquette a été réalisé uniquement à partir de la retransmission de l'espace du centre d'art par la webcam. La perspective est accentuée, le faux plafond représenté par un tramage sérigraphié. Cyril apporte également sa webcam et son ordinateur ainsi qu'un flacon d'alcool de café distillé par ses soins dans la nuit. Une table et une chaise sont installées au centre de l'espace. La maquette retirée de sa boîte y est posée de biais. Cyril récupère les paramètres de la webcam du centre d'art pour la remplacer par la sienne, qu'il dispose au seuil de sa maquette, instaurant un leurre d'échelle pour les internautes. Jour 25. Damien Marchal, la chevauchée des Valkyries. Damien Marchal s'est préalablement procuré, avec autorisation municipale, une bobine de mèche de dynamite, qu'il amène au centre d'art le matin même, ainsi qu'un canevas tendu sur châssis et de l'outillage de broderie. La table de Cyril Verdet est laissée dans l'espace. 8 heures durant, il tisse sans discontinuer le frontispice et les premières mesures de l'opéra guerrier de Wagner, la chevauchée des Valkyries. À l'issue de ce patient travail, à 20h, l'artiste et le public sortent dans la cour pour la mise à feu de la broderie. Les étincelles parcourent en quelques secondes les lignes formées par les mots et les notes. Puis le canevas se consume lentement, aidé par le vent, laissant quelques traces casquinées sur le mur. Jour 26, Gérald Petit, A Conversation Piece. En écho à son exposition simultanée à Villeurbanne, A Conversation Piece, réalisée en collaboration avec le chanteur pop-folk Sean Lee, Gérald Petit transforme le centre d'art au fil du jour. Plateau de tournage le matin, un jeune homme se couche sur la table laissée la veille au centre de l'espace, un casque sur les oreilles et se laisse bercer par une ritournelle du chanteur que le visiteur ne peut entendre. Gérard Petit filme en très gros plan le visage et les mains du jeune homme, puis la webcam. Studio de montage l'après-midi et salle de projection le soir, une fois le film monté et gravé sur Blu-ray. L'espace est mis en abîme et l'image de la webcam répond à la webcam elle-même. Jour 27, Bertrand Lamarche, Vomissoir. Sortie du sac de l'artiste, un conduit d'aluminium comme ceux qu'on utilise pour le bâtiment, une machine à brouillard, un grand rectangle de feutre noir. Le tout est installé après étude des courants d'air, de façon à ce qu'un nuage de brume se répande lentement et régulièrement sur le feutre. Bertrand Lamarche utilise le centre d'art comme banc d'essai pour tester le fonctionnement de sa vomissoire, une modélisation qui doit faire partie d'un cabaret imaginaire en cours de réalisation. Toute la journée, à intervalles réguliers, des ronds de brume se répandent et disparaissent en laissant des traînées qui rappellent des vents de sable. Jour 28, Jacob Gautel, Big Brother. Jacob Gautel passe la journée debout dans l'espace, une caméra fixée sur un harnais de façon à filmer son œil droit en gros plan. Il fixe l'objectif et son regard est projeté à grande échelle dans l'espace. Il est regardé par lui-même, regardant ce qu'il regarde par le biais de la caméra. Et l'œil de la webcam est témoin de l'ensemble. Jacob finit la journée en fermant ses yeux, éprouvé par la fixité du regard, empli de larmes. Jour 29, Guillaume Robert bis, l'œil fantôme des manges. Guillaume Robert a souhaité revenir à l'issue de sa première intervention le 7 février, désireux d'une dimension feuilletonesque de l'expérience. Il y avait deux dates libres, c'était donc possible. Nous avons ainsi instauré une sorte de bégaiement. Durant la journée, il réalise une mise en abîme de l'image du moniteur de la maison populaire. Il le filme en travelling arrière, puis il diffuse sur le moniteur le résultat de cette séquence, qu'il filme à son tour, etc. Il inscrit à chaque étape des mots sur le mur au-dessus du moniteur de façon à créer une phrase. L'œil, fantôme, démange. Jour 30. Didier Courbeau, composé dans le but de rendre quelqu'un heureux. Didier Courbeau arrive, la voiture chargée de fleurs achetée à Rungis. Il installe les socles disponibles et fraîchement repeints en ligne au sud de l'espace et dispose un seau de fleurs sur chacun d'eux. Toute la journée, les visiteurs et les adhérents viennent composer des bouquets pour les ramener chez eux ou les offrir. À la fin du jour, les fleurs ont entièrement disparu. Jour 31. Keren Ben Benisti. La terre est bleue comme une orange. Keren projette sur un coin du mur sud une vidéo aussi longue que le temps d'ouverture du centre d'art, 11 heures, représentant un globe luminescent, peu à peu recouvert d'empreintes digitales noires, à raison d'une empreinte par minute. Ce lent processus, imperceptible à qui regarde le film en continu, fait progressivement ressembler ce globe, une simple lampe de rue, à la Lune, avec ses cratères. Jour 32. Émilie Pitoisé, faire retour aux choses mêmes. Une étrange image est projetée au mur dans laquelle on reconnaît une fameuse scène d'Alphaville. Cette image est tronquée, coupée en son centre et horizontalement inversée, la partie droite à gauche et la partie gauche à droite. On devine deux personnages marchant avec difficulté dans un couloir, mais il semble que leur corps soit insaisissable. Les hors-champs de la scène deviennent omniprésents et une musique étrange, lancinante, obsédante, accompagne les mouvements erratiques. La séquence est répétée en boucle inlassablement comme un cauchemar tenace. Jour 33. Julie Fortier, fondue enchaînée. Julie Fortier utilise son jour comme un fondu enchaîné entre l'œuvre de l'artiste précédent et l'œuvre de celui qui la suit. Or, après elle, il n'y a personne, car là est la case vide de l'exposition. Un jour sans rien, un jour de silence, un espace temporel qui donne sa mobilité à l'ensemble. Son fondu enchaîné est donc un fondu au blanc. La vidéo d'Émilie Pitoiset est projetée au mur comme la veille, avec sa bande son. Et Julie dispose devant le mur une série de projecteurs dont elle va progressivement augmenter la puissance au fil des heures, de façon à noyer l'image dans une nappe de lumière, tout en diminuant peu à peu le son pour le ramener au silence. Il n'y a rien dans l'espace. Jour 34, case vide.
Encore une fois, en fait, j'ai mis des... Voilà. Il n'y a rien dans l'espace que les murs, les néons allumés, la documentation et la webcam. Voilà, jour 35, encore un coup. Jour 35, Roxane Brogerdi. Le centre d'art est un atelier de construction dans lequel Roxane Brogerdi fabrique la version géante d'un jeu pour enfants qui consiste en des pièces géométriques articulées, ici des triangles, et permet de réaliser des formes. Des pièces de bois sont coupées, peintes de différentes couleurs, séchées, assemblées par un tendeur. En ressort une chaîne géante qui pourrait être augmentée à l'infini. La pièce est tout juste terminée quand l'heure est venue de démonter. Jour 36. Julien Tibéri. Heureux sont les fêlés car ils laisseront passer la lumière. Soit les fêlés, pardon. Julien Tibéri déroule sur le mur un grand dessin réalisé au graphite, une forme composite qui rappelle le frontispice d'un livre ancien, rassemblant les styles et typographies de plusieurs époques. On peut y lire et y voir les mots de Jacques Audiard. Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière. Une phrase clé sur la condition de l'artiste dont le propre est d'éclairer des pans de monde pour éclairer ceux qui y vivent. Julien essaye différentes lumières afin d'opter pour la sobriété des néons qui respectent la continuité entre le blanc du dessin et le blanc des cimaises. Le dessin se prolonge donc sur les murs. À la fin du jour, le dessin est enroulé et emporté sous le bras. Jour 37, Dominique Blais, disjonction binaire. L'artiste s'installe sur une table invisible pour la webcam. Son ordinateur est relié à un boîtier DMX, lui-même connecté à la lampe posée sur la banque d'accueil. Entre 13h30 et 19h30, Dominique actionne un programme informatique réalisé sous Max MSP qui enregistre un 1 chaque fois qu'une personne pénètre dans la maison populaire, éteignant une fraction de seconde la lumière de l'accueil, et une suite de 0 tant qu'il n'y a personne, maintenant la lumière allumée comme à l'habitude. Une séquence est ainsi créée au fil du jour, plus de 300 entrées, dont les données sont emmagasinées par le programme pour être rejouées à 19h30, heure du vernissage des montages, à vitesse x10. Durant 36 minutes, une séquence abstraite restitue de manière fantomatique les mouvements des visiteurs et adhérents de la journée. Jour 38, Évariste Richer. Évariste Richer apporte un fossile d'arbre, vieux de 25 millions d'années, dans le flux temporel de démontage. Il le pose sur une plaque tournante et le filme en gros plan pour diffuser en temps réel l'image en rotation à grande échelle sur le mur. Il en résulte une impression d'hypnose et de relief spirale qui trouble notre relation au temps et à l'espace. Jour 39. Marie Reinert, vendredi 18 mars. Marie Reinert met en pratique l'activité de l'artiste comme instrument du curateur. Toute la journée, elle me demande de lui donner des instructions à distance, par webcam interposée, et de me servir d'elle comme son instrument, comme un corps dans un espace. Jour 40, Romain Pélas. Romain Pélas a préalablement récupéré, c'est mis à plat le titre, pardon, a préalablement récupéré et peint en blanc 1600 boîtes en carton, ce qui a nécessité de très nombreuses heures de travail. Ces boîtes envahissent peu à peu et méthodiquement l'espace du centre d'art, de manière à laisser des passages pour les visiteurs et les adhérents qui se rendent à leurs activités. La circulation des corps fait apparaître une distorsion d'échelle, comme des géants dans une ville miniature. Puis les boîtes sont rangées l'une après l'autre dans de grands sacs poubelles pour être réacheminées chez l'artiste dans un transport surchargé. Jour 41, Neil Beggs, From Our House to the Summit of Europe, Drawing One. Neil Beggs trace sur le mur ouest du centre d'art, celui-ci, avec du scotch, la trajectoire de sa marche entre sa maison près de Nantes et le sommet du Mont Blanc, dont la documentation filmée est diffusée sur l'écran de son ordinateur posé au sol. Puis, après avoir peint des laits de scotch, il répète ce trait tout contre le premier, puis il le répète encore et encore, alternant des lignes noires, rouges et neutres, jusqu'à ce que l'indication diagrammatique du chemin se transforme en un graphique abstrait. Le processus dure en tout 8 heures, ce qui correspond à la durée totale du film. Le dessin mural et l'ordinateur composent ensemble l'installation. Jour 42, Guillaume Robert, Terre. Know-how, savoir-faire. C'est le troisième et dernier épisode de la série d'interventions de Guillaume Robert qui a souhaité réaliser une forme de feuilleton. Il avait invité Joachim Gatti, victime de flashball habitant Montreuil, à participer à son projet, mais n'a pas eu de réponse. Alors, en attendant Joachim, il réalise Know-how, savoir-faire à partir de balles de flashball qui lui ont été gracieusement offertes par l'entreprise détentrice de l'exclusivité de leur production et en parallèle, il effectue le mapping sémantique de toutes les propositions des artistes passés avant lui à la Maison Populaire depuis le début de démontage. 7 mots-clés sont répertoriés pour agencer les différentes œuvres. Abîme, reprise, représentation, communion, pratique, protocole et vide. C'est donc ce mapping qu'on voit au mur et que voilà, je me suis proposée de reproduire en partie parce qu'il a, il avait fait des connexions, des sortes de patates qu'on n'a pas refait nous, mais en tout cas, ça nous donne une lecture de l'exposition. Jour 43, Ludovic Paquelier, imago éphémère. Ludovic Paquelier réalise une peinture murale, choisissant comme motif l'éphémère, un insecte dont la vie ne dure qu'un jour, comme son œuvre. De part et d'autre de la bête, il inscrit deux mots dont l'association exprime le paradoxe de son action. Imago, éphémère. L'image de l'éphémère devrait servir à faire perdurer l'insecte dans le temps, alors même qu'elle connaît le même sort que lui. En fin de journée, l'artiste prend lui-même le rouleau pour recouvrir de blanc cette dernière. Jour 44, Faisal Bagrich. Faisal Bagrich réalise une exposition à blanc, utilisant tel quel tout le matériel mis à la disposition des artistes et listé dans le protocole. Un socle vide comme une sculpture minimale, un moniteur avec un écran blanc, un vidéoprojecteur et son écran de veille, sorte de Pac-Man improbable, 3 iMac et un PowerBook avec leurs économiseurs d'écran, un micro n'enregistrant rien, des enceintes diffusant du bruit blanc, une exposition de support sans œuvre, de support comme œuvre. Jour 45, Pauline Bastard, justement. Le village global, c'est le dernier jour. Le village global est un diaporama de 24 heures, composé d'images humoristiques récupérées sur les réseaux sociaux d'Internet. Les enchaînements de ces très nombreuses images sont pensés selon des correspondances, tantôt sémantiques, tantôt plastiques. C'est un voyage d'un jour à travers l'imaginaire burlesque des usagers du net. Un extrait de 11 heures environ est montré, durée correspondante aux horaires d'ouverture du centre d'art. Voilà. Et en ce jour 46, donc, ce matin, on a donc passer un autre diaporama qui est le diaporama de 1000 images que j'ai rassemblées qui racontent de manière imagée l'histoire que je vais remettre en route d'ailleurs pendant les interventions de Frédéric et puis de David. Donc voilà un petit peu le fil rouge de ce qui s'est passé avec des mots, avec quelques images. Et puis ce que je ne vous ai pas dit, c'est donc qu'on a là deux œuvres, deux résurgences ou deux dépôts d'œuvres. Celle de Guillaume Robert, donc qui l'a réalisée mardi, et celle de Roxane Borugerdi, qui l'a terminée juste au moment où il fallait démonter. Et c'est comme un débordement de son jour et comme un dépôt, laissé voilà, dans tout ce processus. Et ce que je trouvais intéressant dans cette œuvre, c'est que c'est une sorte de casse-tête ou un jeu de construction avec des parties reliées entre elles, comme pour les enfants, en fait, ces jeux qui sont articulés avec une ficelle au milieu ou un élastique au milieu. Et là, elle l'a réalisé dans une échelle surdimensionnée. Et hypothétiquement, elle pourrait continuer cet enchaînement à l'infini. Et voilà, ça me rappelait aussi ce qu'on a essayé de faire ici, cet enchaînement. Qui pourrait aussi se continuer à l'infini, où toutes les propositions sont à la fois autonomes et à la fois articulées les unes avec les autres. Voilà, je crois que je vais te passer la parole. Juste pour peut-être n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez, parce que l'idée c'est aussi qu'on soit ensemble et qu'on puisse. Et y compris à peut-être donner une autre lecture de tout cette arborescence, parce que là c'est un point de départ, mais c'est quelque chose qui peut vraiment évoluer. Voilà. L'artiste est d'accord. Hein. Frédéric.
Merci Raphaël. Je m'étais dit aujourd'hui que mon objectif serait de rentrer en dialogue avec David Zerbib à ma gauche. Mais bon, ça pourra se faire dans un deuxième temps, un troisième temps ou un quatrième temps. Avant ces temps-là, je constate, puisque ce qui m'a intéressé aussi dans la proposition qui avait été faite par Raphaël, que le titre plutôt que rien est largement expérimenté par rapport à ce qui a eu lieu, par rapport à ce qui a été dit à l'instant. Il est doublement expérimenté, je voudrais revenir là-dessus. Dans cette expression plutôt que rien, on peut entendre pas mal de choses, je vais y revenir. Mais l'une des choses qu'on peut entendre, c'est que, bien entendu, la production elle-même, de tout ce qu'on a pu voir, Et cette profusion a véritablement pour effet d'éviter que rien puisse apparaître. C'est-à-dire, toutes ces choses, finalement, toute cette production, toutes ces possibilités, absolument multiples, essayer effectivement d'y voir un quelconque point commun, ce n'est pas évident. Apparemment, ça a été l'un des objectifs de Guillaume Robert. J'aurais bien voulu savoir également quelles étaient ses patates. Je n'ai pas vu ça, en fait. Comment, tu vois, sur quelle modalité il proposait des regroupements. Mais ce qu'on voyait sur l'image que tu as montré, c'est que de toute façon, c'était des regroupements partiels.
Oui, oui. Je peux vous montrer l'image après.
Ce serait intéressant de voir. Mais le fait que le regroupement soit partiel ne me semble pas étonnant. Comment serait-il possible, effectivement, que nous puissions trouver un point commun peut-être des points communs, il faudrait voir. C'est plutôt une cartographie qu'il faudrait faire, qui a été tentée. Donc la profusion. La profusion, après tout, ça pourrait être tout à fait, si vous voulez, homogène à notre chère société de la production, consommation, circulation. C'est-à-dire, la profusion, ça pourrait être, ça aurait pu être une façon de ne pas rendre possible le rien, hein, c'est-à-dire produire pour boucher tout vide, produire pour boucher tout espace laissé vacant. Donc plutôt que rien, j'entendrai ici, vous savez, il y a un philosophe qui s'appelle Heidegger qui disait que le vrai problème finalement dans cette formule qui vient de Leibniz, c'était le rien, c'est-à-dire penser toujours qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. La vraie difficulté, la vraie difficulté théorique, c'est qui reste dans l'ombre, c'est la question même du rien. En même temps, vous constaterez que dans cette profusion, il apparaît clairement que forcément nous avons tout raté ou presque. C'est-à-dire que qui aura vu les 45 artistes ? Qui aura vu les 45 propositions ? Qui serait capable d'en faire le tour ici et maintenant, même après finalement le récit qui en a été fait ? Je crois que c'est complètement impossible. Et que donc forcément, il y a quelque chose qui ne peut être que déceptif dans la multiplicité des propositions et dans ces 45 rugissants. Et je pense que la déception est bonne. Je suis tout à fait intéressé actuellement par ce qui, de l'art, s'expose aujourd'hui aussi à ne pas être vu, ou à être vu partiellement, ou à être partiellement raté, ou partiellement inconnu. Je suis de plus en plus intéressé par l'art sans spectateur, qui peut parfois être effectivement surnuméraire. Quoi de plus surnuméraire qu'un spectateur, finalement, pour ce qui est de l'art lui-même. Donc, je pense que c'est la réussite. Raphaël, je tiens à te féliciter. Tu es au loin, mais j'espère que tu m'entends. Je tiens à te féliciter parce que c'est déceptif. Et ce n'est pas une blague, je ne me moque pas. C'est tout à fait sérieux. C'est-à-dire que le rien est toujours présent sous la forme même de la déception, la déception d'un regard total qui aurait pu tout voir. Voilà l'impossible même. Vous constaterez, toujours pour continuer sur cette question du plutôt que rien, qu'il y a eu un espace laissé vide et case vide, hein, disait tout à l'heure Raphaël. Le philosophe Gilles Deleuze a beaucoup insisté pour comprendre le structuralisme, hein, cette approche théorique, sur le fait que dans toute structure, il y a une case vide. Et que c'est cette case vide qui permet finalement à la structure elle-même de se transformer. Et donc c'est bien qu'il y ait eu au cœur même de cet assemblage la case vide qui vient rappeler ce dont je parle maintenant, c'est-à-dire qui vient rappeler l'existence même du rien et du vide, sans lequel il n'y aurait pas même de production, de venue au jour, d'apparition. Et encore une fois, Guillaume Robert a lui-même travaillé cette question à partir de l'énoncé de Paul Valéry. Ôter toute chose que j'y puisse voir, je ne me souviens jamais exactement que j'y vois. Voilà, ôter toute chose que j'y vois, qui est une façon, pour moi en tout cas, de répercuter cette question du vide comme condition même de la perception et de l'apparaître dans ces 45 propositions agencées. Bon, je m'en tiendrai là pour l'instant, quitte à revenir ensuite. Je passe la parole à David Zerbi.
Bien, mais merci, merci Raphaël pour l'invitation. Et merci Frédéric d'entrer comme ça en dialogue avec moi. J'hésite entre deux options. Parce que je sens que nous sommes ici dans ce débriefing, dans un rapport à ce qui s'est produit assez souple. Et je me dis que l'intervention que j'avais prévue au sujet de la question de l'expérimentation risque d'apparaître au fond comme un sorte de contrepoint peut-être trop encadré dans un propos spécifique. Mais je vais quand même essayer d'articuler les choses par rapport à ce que vient de dire notamment Frédéric, qui me semble tout à fait intéressant, du point de vue de ce rapport à la définition, au fond, de ce qui s'est produit. Et je rejoindrai assez Frédéric à partir de la forme même de ta présentation, Raphaël, qui paraissait tout à fait juste, je crois, pour présenter ce qui s'est joué ici pendant 45 jours. Je me demandais même si, dans ton récit, la mention des jours et du titre des œuvres était encore utile. Et tu parlais tout à l'heure de fil rouge. Au fond, il n'y a pas tellement de fil rouge. On voit plutôt apparaître une sorte de magma un peu en fusion, quoi, quelque chose qui serait plutôt qui se fondrait dans un presque tout. Ouais, c'est plutôt que rien, mais c'est presque tout. Et malgré tout, malgré ce presque tout, disons, effectivement, il y a de l'espace, il y a du jeu, il y a de la case vide. Et au fond, ce qui se passe au niveau de cette difficulté à saisir ce qui se produit, cette oscillation au fond entre le presque tout et je pense à ce titre d'un travail de Jean Kelevitch, le je ne sais quoi et le presque rien. Au fond, on est plutôt dans le je ne sais rien et le presque tout. Là, ça serait un peu dans cette approche-là. Je pense que tu traduis assez, très très bien ça dans ta lecture et dans ton récit. Et on se rend compte que finalement un des sens possibles de cette expérience, c'est aussi de produire un récit comme celui que tu viens de faire et qui pourrait être même radicalisé, je pense, en oubliant même la mention des jours et pour faire apparaître comme ça cette dimension un peu ce magma qui oblige quoi ? Qui oblige précisément à interroger les cadres, les cases. Vide ou pas, les structures. Frédéric parlait du rapport au structuralisme et la place de la case vide comme espèce d'interrupteur comme ça de la structure elle-même. Et évidemment, c'est ce qui finit par ressortir quand on s'intéresse à ce qui se produit à l'intérieur, à ce magma, là, à cette succession de faits. Je note aussi que pour parler de ce qui s'est passé, tu es obligé de recourir à la description d'action. L'action avec des acteurs, qui sont les artistes, dans un lieu donné, qui font des choses. Ce qui en soi n'est pas évident quand on parle d'art. Quand on parle d'art, on décrit plutôt des formes, des objets, des rapports spatiaux. C'est seulement dans certaines catégories, au fond, d'œuvres ou d'opérations artistiques, qu'on est amené à décrire des actes. Bon, là, finalement, tout ce qui se présente dans cet espace pendant les 45 jours, finalement, est justiciable d'une lecture en termes pratiques, en termes d'actes, d'actions, de faire, de performance. C'est vrai que tout ce qui se joue ici est une grande performance. Et donc, dans ce flux actif, pratique, là, qui se donne à voir ou à ne pas voir, effectivement, Frédéric a raison de souligner cette problématique de la saisie de ce qui s'est joué ici. Ce qui ressort, en effet, c'est la case vide, et peut-être la case vide qui joue comme format même de tout ce qui s'est produit ici. Au fond, ça interroge évidemment les cadres, les structures, les cases, comme je disais. Et je m'interrogerai sur la question de savoir comment qualifier cette case, comment qualifier ce cadre. Et il me semble que la meilleure notion ici pour penser cette affaire, ce serait celle de format. Le format, c'est une notion assez qui m'intéresse assez en ce moment, et il me semble que elle permet d'articuler précisément les les problématiques de la forme, au sens assez classique, de la, pas classique ou moderne de l'œuvre d'art, la question des structures et quelque chose qui est au fond une dimension entre la forme et la norme, qui serait justement le format, donc, qui serait une sorte de peut-être que la case vide, précisément, c'est un format. C'est un format, c'est-à-dire au sens même du format technologique, qui est omniprésent ici, d'ailleurs, notamment le mode de présence de ce qui s'est passé à travers la webcam et les différentes formes de représentation de l'expérience. Je dirais que le format, c'est une sorte de forme opératoire ou de case ou de cadre opératoire qui permet des traductions, qui permet des transductions, qui permet des modes d'accès à une information, mais qui est évidemment un cadre plastique, fondamentalement. Le format, c'est un cadre plastique qui peut être reparamétré. C'est une structure qui n'est pas, au fond, qui n'est pas structurale, c'est-à-dire qui n'est pas une structure qui agit de manière, disons, comme un cadre plus ou moins immuable qui soutiendrait le sens, les interprétations, la production des formes et dans lesquelles joueraient les événements, en essayant parfois de produire de la variation, mais dans un cadre assez qui est d'une certaine manière prédéfini. Le format, c'est un cadre plastique. C'est un cadre plastique que serait, au fond, toute la maison populaire dans ton projet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a beaucoup de propositions ici des artistes qui se servent de ce format-là comme d'une matière plastique. Et pourquoi parler de format et pas tout simplement d'un espèce de cadre ou d'une structure institutionnelle que serait la galerie d'art, le musée, la maison populaire, l'institution culturelle? Parce que, et c'est ce que ton projet et ce que les propositions des artistes mettent en avant, c'est le fait qu'en donnant à voir ce cadre qui est au fond ton protocole ici. Voilà, vous avez un espace donné, un temps donné, des moyens donnés, une espèce de cadre protocolaire. Tu ne fais pas que mettre en lumière le fait que ce qui définit les actions, y compris les gestes ordinaires qui sont accomplis dans certains cas pendant ces 45 jours, ces formes non identifiables, non discernables qui sont présentées ici parfois, ça ne met pas en lumière simplement cette espèce de définition institutionnelle de l'art. Ça ne met pas en lumière simplement le fait que quelle est la différence entre un objet ordinaire présenté dans la rue à côté ou trouvé dans un supermarché de Montreuil et puis présenté ici pendant une journée dans ce lieu-là, la différence ontologique, ce qui ferait la différence de nature entre cet objet-là et cet objet présenté ici, ce serait simplement le cadre ici, le cadre artistique que tu offres comme commissaire d'exposition à un certain nombre d'actions dont la nature artistique au fond dépend de ce cadre-là. On serait ici au cœur d'une problématique de définition de l'art à l'époque contemporaine, dans l'héritage du ready-made, du geste ordinaire, etc., de la fusion entre l'art et la vie et autres problématiques que l'on connaît assez bien. C'est évidemment assez problématique parce que on aboutit vite et il y a toute une école philosophique qui tendrait de cette manière-là, à partir de ces logiques-là, à réduire au fond le propre de l'art à ces déterminations institutionnelles, à ces structures plus ou moins sociologiques, politiques, que sont celles du monde de l'art, qui vient au fond déterminer la nature artistique des œuvres, au-delà finalement de la spécificité esthétique, au-delà de la portée du projet des artistes, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ton projet, le cadre institutionnel, la galerie, l'espace donné, le temps qui est donné, est véritablement livré comme une matière plastique. C'est livré comme une matière plastique, c'est livré comme ce qui est à travailler ici,
ce qui est à travailler de manière même matérielle. C'est-à-dire qu'on va travailler, il y a un certain nombre de propositions qui vont travailler les murs de la galerie, qui vont prendre comme matériau, comme médium, le dispositif que tu mets à disposition. Je pense à la proposition, d'ailleurs, assez radicale de Faisal Bagrich pour le dernier jour. Tout cela montre que quand l'art s'inscrit comme ça, dans un cadre, sa fonction, c'est d'abord de faire jouer, au fond, comme la cette case vide dont tu parlais, Frédéric, de transformer, de rendre, au fond, de faire jouer la structure qui semblait préalablement déterminer ce qui allait se produire. C'est comme ça aussi que l'on pourrait définir la performance, quelque chose qui vient, tout en s'inscrivant, par le fait même de s'inscrire dans un cadre, ou dans un contexte, ou dans une structure, rend cette structure plastique et déterminée par ce qui s'est joué à l'intérieur. C'est au fond une manière de penser la performance comme ce qui vient travailler la forme par le fait même de s'y inscrire, ce qui la transforme par le fait même de jouer le jeu de son inscription dans le cadre. Au fond, c'est transformer un cadre institutionnel en